petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Face à la pandémie, que fait donc l'Europe ? Elle donne l'impression d'être absente. C'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pourtant pas une bonne question. Car très clairement, ne l'oublions pas, la santé est du domaine des États et non de l'Union européenne. Les Européens l'ont jusqu'ici voulu ainsi dans les traités institutionnels. Alors ça commence à changer dans la mesure où la Commission européenne s'occupe principalement de la commande et de la répartition équitable des vaccins ainsi que de leur contrôle pharmacologique. Bon, c'est quand même un peu lent peut-être. La bonne question serait-elle celle du fameux plan de relance économique ? Oui, elle fait partie des préoccupations importantes. Mais selon le pape François, ce n'est pas le principal problème européen, je le cite, « il ne s'agit pas d'élaborer des solutions innovantes aux problèmes économiques et sociaux », écrit-il en octobre 2020 à son secrétaire d'État, c'est-à-dire son premier ministre, le cardinal Parolin, qui devait rencontrer, et a rencontré d'ailleurs, les personnalités politiques et religieuses de l'Europe. Phrase surprenante, car l'encyclique Laudato Si de 2015, qui a eu un grand retentissement, appelait à trouver des solutions innovantes en matière économique, sociale et environnementale, justement. En fait, il n'y a aucune contradiction. Le vrai problème, pense le pape, est philosophique ou plus particulièrement anthropologique. Moins sévère contre l'Europe que dans des textes ou discours passés, François n'en est plus à comparer l'Europe à une vieille grand-mère, mais il persiste à l'exhorter à un nouvel élan plutôt qu'à se satisfaire de son glorieux passé civilisationnel. Autant le pape a raison de secouer l'Europe trop sécularisée, autant nous pouvons rappeler l'actualité dynamique de l'Europe quant à l'intégration des pays de l'Est, tout récemment quand même, ou en tant que fer de lance mondial de l'urgence climatique, ou aussi par l'attraction de son modèle d'économie sociale de marché, ou encore par sa générosité annuelle de 50 milliards d'euros en faveur de l'Afrique, sans compter les mouvements caritatifs internes, intra-européens, souvent majoritairement peuplés de chrétiens. Nous revenons à la question essentielle. Les questions essentielles, l'anthropologie et la philosophie politique européenne. En un premier lieu, comme toujours s'agissant d'enseignement social chrétien, le rappel au respect de la dignité sacrée de chaque personne, si on ne veut pas en faire une chose ou une marchandise. Là où le bât blesse, selon le pape, est sur le respect des migrants et la honte de leur cimetière en Méditerranée. François insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de bien accueillir, mais qu'il faut résolument mettre en œuvre l'intégration et l'assimilation des migrants. Autre question anthropologique, les racines chrétiennes de l'Europe. En 2000-2001, Chirac, président de droite, et Jospin, premier ministre de gauche, refusent ensemble que la Constitution européenne parle des racines chrétiennes de l'Europe au nom de la laïcité. En 2003, Saint Jean-Paul II, dans l'Église en Europe, rappelle l'évidence des racines chrétiennes, l'Europe des cathédrales et peut-être plus encore l'Europe des monastères. François est bien d'accord, mais dans son discours, dès son discours, devant le Parlement européen en 2014, les racines chrétiennes, pour François, ne sont pas seules. Il y a la Grèce, Rome, les Celtes, les Germains, les Slaves. Rappelons que la construction européenne est jalonnée d'acteurs chrétiens de premier plan, Robert Schuman cité plusieurs fois par François, Adenauer l'Allemand, Gasperi l'Italien, et plus récemment Jacques Delors, Romano Prodi, Jean-Claude Juncker, et aujourd'hui la luthérienne Ursula von der Leyen, nouvelle numéro 1 de l'Union européenne. Et n'allons pas, n'oublions pas, que le drapeau européen a été consciemment choisi comme étant le drapeau bleu à 12 étoiles de la Vierge Marie. Autre question philosophique, la laïcité. Le pape déclare « Dieu et César sont distincts, mais ils ne sont pas opposés ». Peu après cette affirmation, un incident diplomatique rendait encore plus compliquées les relations de la religion et de l'État. Le président égyptien El-Sissi, en visite officielle à Paris, revient sur les caricatures de Mahomet et il les considère comme un blasphème et dit que les droits de Dieu sont supérieurs aux droits de l'homme. Le président Macron, qui décore malgré tout le président El-Sissi de la Légion d'honneur, répond fermement que la République française ne dérogera pas à la liberté d'expression. On a récemment parlé ici du blasphème, n'y revenons pas. Mais on voit bien l'enjeu mondial. El-Sissi est musulman, mais attention, il n'est pas radicalisé puisqu'il s'oppose violemment aux djihadistes dans son pays, très violemment. La laïcité n'a donc pas que des fanatiques terroristes comme opposants. Par ailleurs, le pape dit que le laïcisme ferme la porte aux autres et à Dieu. Il a raison. Le laïcisme, la forme excessive et abusive de la laïcité, est en fait un athéisme combatif qui ferme la porte à Dieu et aux autres par son intolérance de toutes les religions. C'est de l'obscurantisme qui se croit moderne. Mais le chrétien européen ne confond pas laïcité et laïcisme. Nouveau miracle européen, la fin du Brexit. Que les négociations se soient terminées par un accord, tant mieux. Mais le miracle n'est pas là. Le miracle est que les 27 États de l'Union européenne sont restés unis durant la négociation du Brexit. La Grande-Bretagne avait parié sur les divisions européennes, l'Union européenne a résisté, les eurosceptiques n'en croient pas leurs yeux ou leurs oreilles, et outre le Brexit, l'actualité est dominée par le plan de relance européen décidé en juin et juillet 2020, 750 milliards d'euros pour voir ce que ça signifie, c'est deux fois le budget annuel de l'État en France, donc 750 milliards d'euros auxquels s'ajoute une rallonge au budget pluriannuel européen 2021-2027 d'un total de 1074,3 milliards d'euros. Répartition à peu près équitable entre l'économique, le social et l'environnemental. Le plan de relance français de 100 milliards bénéficie de 40 milliards du plan européen. Faut-il dire que les préoccupations principales de l'Europe sont donc financières. Certes, ces préoccupations financières sont importantes, mais la primauté philosophique revient au galop. Deux États, en effet, refusent d'entériner l'accord européen qui, soit dit en passant, pour la première fois, utilise un emprunt commun à l'Union européenne et non à chacun des 27. C'est un progrès. Mais la Pologne et la Hongrie s'y opposent alors que ces deux pays font partie des principaux bénéficiaires du plan de relance. Alors que veulent-ils de plus ? L'abrogation d'une condition fixée par l'Union européenne, à juste titre d'ailleurs, pour faire partie du plan de relance. Être un État de droit sinon rien. Or la Pologne et la Hongrie violent gravement la liberté de la presse et l'indépendance de la justice au nom d'un populisme d'extrême droite. La Pologne et la Hongrie, pour cette raison idéologique, refusent aussi le nouveau protocole européen de septembre 2020 sur les migrants, qui pourtant est meilleur que le protocole précédent et présente une plus juste répartition des migrants entre pays. Pologne et Hongrie leur ferment leurs frontières. Ceci pose le problème de la gouvernance de l'Union européenne. Pour satisfaire tout le monde, cette gouvernance est très complexe. Faut-il aller vers une fédération ou une confédération européenne, ou bien mieux structurer et démocratiser la zone euro, ou bien encore mettre en œuvre une Europe à plusieurs vitesses?
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.